billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, centre d'information Europe Direct Limousin. Pour cause de confinement, nous reprenons nos chroniques téléphoniques. La devise de l'Union européenne, Daniel, c'est « Unis dans la diversité ». Depuis 3 ans, nous avons beaucoup vu l'Union. Vous souhaitez maintenant insister sur la diversité et pour cela, vous nous proposez de visiter les pays européens afin d'en comprendre l'engagement. Par quel État membre commençons-nous, Daniel ?
Alors Yann, si vous ne voyez pas d'inconvénient, nous allons débuter par la France. Non pas par chauvinisme, mais parce que la France occupe une place singulière en Europe et bien sûr parce que dans la construction européenne, son rôle est majeur. Alors, la place de la France est singulière en Europe d'un double point de vue de l'espace et de l'histoire. Quelques rappels scolaires, j'en suis bien convaincu, mais il me semble indispensable. L'espace français présente en Europe plusieurs caractéristiques. La France est, devant l'Espagne et la Suède, le pays le plus étendu de l'Union européenne. Les 550 000 km² pour la seule France métropolitaine représentent près de 15% du territoire de l'UE. Deuxième caractéristique, la France est un isthme entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et à ce titre un espace de transit très utilisé, comme on le voit sur l'A20 avec les camions ibériques. Troisième caractéristique, située à la pointe occidentale de l'Europe, la France est un espace fortement maritime avec une double façade, à l'ouest l'Atlantique, Manche et Mer du Nord, et au sud la Méditerranée. Enfin, quatrième caractéristique, et c'est un héritage de la colonisation, les territoires d'outre-mer rendent l'espace français pour partie mondial. En Amérique, avec les départements caribéens et la Guyane, en Océanie-Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, et en Afrique avec la Réunion et Mayotte. Ces territoires d'outre-mer font de la France la deuxième puissance maritime mondiale. Alors, s'agissant de l'histoire, eh bien cette histoire confère à la France une place spécifique dans le concert européen. Premier État-nation avec l'Angleterre, la France forge son unité territoriale sous la longue dynastie des Capétiens. Lorsque s'achève la construction de l'État centralisateur sous les Bourbons, singulièrement sous Louis XIV, le grand roi, au XVIIe siècle, la France domine l'Europe. Dans les chancelleries européennes, on parle français et les petits Versailles se multiplient dans l'espace européen. Un siècle plus tard, en prolongement des Lumières, la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se fait le chantre d'un universalisme républicain. Paradoxalement, la colonisation à la fin du XIXe siècle conforte cet universalisme. Les écoliers français d'alors apprennent que la nation remplit, j'ouvre les guillemets, sa mission civilisatrice auprès, j'ouvre toujours les guillemets, des peuples inférieurs, et ce au moment même où le pays cède en Europe continentale la première place à la nouvelle puissance qu'est l'Allemagne. 50 ans plus tard, malgré l'issue favorable des deux guerres mondiales, le pays bientôt en proie à la décolonisation sait qu'il lui sera difficile de retrouver la grandeur du passé. On connaît la fameuse formule du politologue américain Zbigniew Brzezinski : à travers la construction européenne, la France vise la réincarnation.
Alors, en somme, pour la France, l'horizon européen se substitue à l'horizon mondial ?
Oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça, Yann. Mais n'oublions pas quand même que la France conserve des éléments de puissance mondiale, politique, avec le siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, militaire, avec l'arme nucléaire. Ajoutons-y le prestige culturel et artistique. Mais c'est vrai qu'avec 67 millions d'habitants, soit 1% de la population mondiale, et seulement le 20e rang des pays les plus peuplés, et avec 3,2% de la richesse mondiale, du PIB mondial, soit le 6e rang mondial, très loin des premiers, elle est de fait une puissance moyenne.
Et dans la construction de l'Europe, quel rôle la France joue-t-elle ?
Alors, elle joue un rôle important, mais contradictoire selon les moments, en appuyant alternativement sur l'accélérateur et sur le frein. La France est à l'initiative de la construction européenne avec la déclaration Schuman du 9 mai 1950 qui scelle le rapprochement entre la France et l'Allemagne et qui débouche sur la création donc de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951. Mais c'est la France qui fait capoter le projet de CED, Communauté européenne de défense, en 1954, projet qu'elle avait pourtant proposé. La France joue un rôle décisif dans la création de la CE, Communauté économique européenne et de l'Euratom, hein, en 57 avec les traités de Rome. Mais de juillet 65 à janvier 66, c'est la France de De Gaulle qui, en pratiquant la politique de la chaise vide, bloque la machine européenne. Il s'agit pour elle d'empêcher toute évolution fédéraliste et d'en rester à une Europe intergouvernementale. J'ajoute que dès 63 et encore en 67, en mettant son veto à l'entrée du Royaume-Uni, De Gaulle indique que l'Europe doit être et doit rester continentale. Avec les successeurs, à des degrés divers, la France accepte la voie de l'intégration. Économique sous Pompidou, mais aussi politique sous Giscard d'Estaing et en mode accéléré sous François Mitterrand avec en 92 le traité de Maastricht qui crée l'Union économique et monétaire et instaure la citoyenneté européenne. Cependant, remarquons que les Français consultés par référendum n'approuvent le traité de Maastricht que par 51% des voix. En 1999-2002, officiellement, la France adopte l'euro et accepte le grand élargissement à 10 nouveaux pays en 2004. Mais le traité constitutionnel soumis à référendum en mai 2005 est rejeté par 54,7% des électeurs, provoquant une panne européenne que le traité de Lisbonne n'a qu'en partie surmontée. Enfin, avec l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, la France réaffirme son souhait d'une intégration européenne en réactivant le couple franco-allemand, d'où le traité d'Aix-la-Chapelle en janvier 2019. Mais c'est vraiment la crise du coronavirus qui provoque une véritable réponse d'intégration avec le plan de relance de juillet 2020. Au total, bien qu'accepté par une majorité de Français, le projet européen n'a pas effacé chez nombre de nos concitoyens la nostalgie de la puissance. Cela explique sans doute la faible appétence pour l'information européenne. Plus grave encore, un investissement limité des élites politiques dans les affaires européennes et sans oublier l'importance du vote anti-européen. Le résultat en est, depuis une vingtaine d'années, un affaiblissement continu de l'influence française dans les hautes sphères bruxelloises.